Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans le psaume 99, le verset 5. Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être le sujet de l'adoration. Alors, le titre du sermon est assez simple. Adorons le Seigneur. On va regarder trois idées à l'intérieur de ça. L'adoration, sa prééminence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prééminence? C'est que l'adoration dans nos vies comme chrétiens, ça devrait être une chose au premier plan. C'est la plus importante. La prééminence, c'est la chose la plus importante de nos vies, c'est l'adoration pour un chrétien. La deuxième idée qu'on va regarder, l'adoration, c'est prérequis. Autrement dit, est-ce que n'importe qui peut adorer? Et faut-il être chrétien pour adorer? Puis si on est chrétien, est-ce que l'état de notre âme va influencer la qualité d'adoration? Ça va être la deuxième idée qu'on va regarder. La troisième, l'adoration, sa préciosité. Donc, qu'est-ce que l'adoration va amener dans nos vies comme transformation, comme récompense, parce qu'il y a une très grande récompense de rattacher à l'adoration si elle est faite dans les termes que le Seigneur demande dans les Écritures. Alors là, ce qu'on veut faire, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un peu... je voudrais regarder où on en est individuellement dans le thème de l'adoration et où on en est collectivement. On a toujours tendance à penser qu'on adore correctement, individuellement. On a toujours tendance à penser qu'on adore correctement, collectivement. Cependant, quand on lit des livres sur l'adoration, j'en ai trois ou quatre à la maison que j'avais lu à un moment donné, et R.W. Tozer, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un gars, un Américain, qui était un leader dans le milieu de l'Alliance chrétienne missionnaire. Un gars qui était reconnu pour étant un fin observateur de la scène religieuse américaine. Alors, dans son livre, il a écrit deux ouvrages sur l'adoration. Un qui s'appelle « Whatever Happened to Worship? A Call to True Worship? » Autrement dit, qu'est-ce qui est arrivé à l'adoration? Un appel pour la véritable adoration. Ça, c'est son premier titre. Son deuxième, c'était « Tozer on Worship and Entertainment ». Autrement dit, il veut faire la différence entre la véritable adoration en Église et tout simplement le divertissement. Parce qu'il y a des Églises qui, tranquillement, ont passé de l'adoration de Dieu à un genre de culte où le divertissement est plus important que l'adoration du Seigneur lui-même. Alors, il a écrit ces deux livres-là, je les avais lus. Et il a fait des remarques à l'intérieur des livres qui m'ont frappé. Une, il disait, « L'adoration authentique est la pierre précieuse manquante dans le christianisme contemporain. » Et ça, c'est une observation générale. Il ne parle pas de l'Église de Rouyn-Noranda. Il parle de l'observation dans toutes les églises que lui connaît, les choses qu'il a entendues, qu'il a lues sur le sujet de l'adoration aux États-Unis. Puis il dit la chose, c'est la pierre précieuse qui manque. Quelque part, ça révèle une idée importante. Deuxième remarque qu'il a fait, il dit « La véritable adoration est un art oublié de nos jours. » Et là, il dit « Souvent, nos assemblées sont caractérisées par la cordialité, l'humour, l'affabilité et le zèle. Cependant, nous trouvons rarement des groupes où la présence de Dieu est profondément expérimenté par les assistants. » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de qualités dans nos rassemblements, mais quand il parle de la présence de Dieu qui est profondément expérimentée, autrement dit, si quand on se rassemble comme Église, on ne ressent pas d'une façon intense la présence de Dieu, sa beauté, son immensité, sa grandeur, ses perfections, à quelque part, on a eu un culte où on peut avoir eu quelques petits manquements. Et il y a une troisième idée qui nous dit, il y a autour de nous un substitut pour l'adoration, la frénésie de l'action. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que on a tendance à beaucoup s'agiter dans l'action et souvent on oublie de mettre l'accent sur le Seigneur lui-même. Alors, juste pour nous montrer que dans la Bible, c'est pas quelque chose de nouveau comme phénomène. Quand on lit dans Luc 10, versets 38 à 42, on a le fameux passage de Marthe et Marie. Qu'est-ce qui se passe? Souviens, c'était quoi? Marthe et Marie, il y en avait une que elle était très agitée à servir le Seigneur. Et là, elle disait à sa sœur, « Ben voyons, Seigneur, dis donc qu'elle vienne m'aider. » Puis elle s'était assise au pied du Seigneur, puis elle écoutait la voix. Puis le Seigneur, il dit, « Non, je ne lui demanderai pas de servir. » Elle a choisi la meilleure part et elle ne lui sera point ôtée. Alors, on va lire le passage. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Autrement dit, le service, je ne dis pas que ce n'est pas important, puis ce n'est pas une façon de mépriser le service, là. C'est juste une façon de dire que entre le service et l'adoration, l'adoration doit avoir priorité. Et c'est ça que Marthe avait choisi. Pour elle, écouter le Seigneur, c'était l'adoration. Et l'autre qui était très agité, le Seigneur lui a pas dit « Tu fais mal de servir et pas m'écouter. » Il a juste montré qu'elle avait fait le bon choix et qu'il ne lui enlèverait pas le fait d'avoir fait le bon choix. Et là, ça c'est selon un observateur de la scène religieuse américaine, Tozer. Maintenant, je suis abonné à une petite revue qui s'appelle « Free Grace Broadcaster ». Ça s'appelle la diffusion de la grâce libre, si on pourrait traduire ça en français. Et ils avaient publié un numéro, qui était le numéro 177, et le titre, c'était « Worship ». Alors, je me suis servi un petit peu de ce petit magazine, pour aller regarder qu'est-ce que les grands auteurs, les grands prédicateurs du passé avaient dit sur l'adoration. Alors, je vais vous donner une petite phrase, elle n'est pas longue, en anglais, puis je vais vous la traduire en français. The one thing above all that God desires of men is worship. God desires obedience of men. He desires service. He desires prayer. He desires praise and thanksgiving. But his supreme desire from men is worship, is seeking worshipers. Traduction libre. La chose que le Seigneur désire par-dessus tout est l'adoration. Dieu désire l'obéissance des hommes, il désire le service, il désire la prière, il désire la louange et l'action de grâce, mais son désir suprême de la part des hommes est l'adoration. Il cherche des adorateurs. Alors, nous avons été sauvés pour que nous puissions adorer. Je me souviens quand on a eu à Lac-Mégantic l'Assemblée générale, pas celle de cette année, l'autre à Lac-Mégantic, quelle année que c'était, 2013, 14? Allez, bon, à Lac-Mégantic. Et le pasteur qui nous prêchait nous disait, ça m'a frappé sur le coup, parce qu'il dit, quand nous, on va prêcher, donner l'Évangile à quelqu'un, on veut prêcher l'Évangile, de quelque façon que ce soit, bien souvent, notre motivation première, c'est que les personnes soient sauvées de l'enfer. N'est-ce pas que c'est sur le même qu'on réfléchit? Lui, il dit, non, c'est pas ça qu'on devrait désirer. Quand on partage l'Évangile, La raison pour laquelle on se devrait de faire la chose, c'est pour que nous qu'il puisse se joindre à nous comme adorateur. Autrement dit, l'idée, ce n'est pas de les sauver de l'enfer. L'idée, c'est de les amener à découvrir la grandeur insondable du Seigneur et qu'ils se joignent à nous comme adorateurs. C'est complètement différent comme optique. Alors moi, ça m'avait frappé. Et après, il développe toute son idée. Oui, il a raison. C'est ça qu'on se doit de faire. La raison pour laquelle on partage l'Évangile, c'est pour faire découvrir la grandeur du Seigneur Jésus-Christ et qu'il se joigne à nous pour être des adorateurs. Est-ce que c'est ça que le Père cherche? Oui. Alors, nous devons, on va regarder pour le premier point, l'adoration, sa prééminence. Nous devons l'adoration à Dieu. C'est son dû. C'est notre premier devoir. Je vais vous poser une question. Combien de temps passons-nous quotidiennement devant lui en contemplation silencieuse? Le problème, c'est qu'on s'en va devant le Seigneur, on fait notre culte, on prie, on lit les Écritures. Autrement dit, nous, on parle, mais on ne lui laisse pas le temps de nous parler. La contemplation silencieuse, ça dit « t'es silencieux ». Contemplation, ça veut dire que tu découvres la grandeur, les merveilles de Dieu, ses attributs, et tu es émerveillé. La contemplation, ça veut dire que... J'ai une valeur, j'ai eu envie de m'amener... Il y avait une petite image dans la revue Worship. C'était trois hommes. Il y en avait un qui était comme ça. Il regardait au ciel. L'autre était comme ça. Et c'est vraiment... Ça représentait l'attitude de notre cœur et de notre esprit quand on est en admiration devant Dieu, devant quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il a dit, ou la manière dont il dirige nos vies. Alors, ce n'est pas suffisant de lui obéir. Ce n'est pas suffisant de le prier. Ce n'est pas suffisant de le louer. Ce n'est pas suffisant de le remercier, de le servir et de faire sa volonté. C'est beaucoup de dire, dire ça. C'est pas suffisant. Pourtant, si quelqu'un ferait tout ça, il ferait beaucoup. Nous devons l'adorer. Et souvent, le problème, c'est dans notre définition de qu'est-ce que c'est l'adoration. L'adoration est éminente, est prééminente à cause de quoi? Pourquoi on se doit de la placer en premier? À cause des perfections infinies du Seigneur. Psaume 145, versets 1 à 3. C'est un psaume c'est un début de psaume que je trouve tellement riche. Voyez-vous ce qu'est louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Deuxième verset. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Et le verset 3, un verset d'une profondeur convaincu qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui le comprend véritablement dans toute sa profondeur. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. On avait déjà parlé de ce que c'était quelque chose, de sonder quelque chose. Si je veux sonder la profondeur d'un puits, je prends un fil, un morceau de plomb ou de métal, puis je le laisse descendre dans un puits. Et là, disons que ça fait un mille que je le descends. Un moment donné, je vais entendre « toc ». Il va avoir atteint le fond. Mais quand il s'agit de découvrir les attributs de Dieu et leur profondeur et leur largeur, on n'atteindra jamais le fond. C'est tellement une idée fantastique, c'est que jamais, aussi longtemps que je peux avoir médité, disons, sur un attribut de Dieu, disons, prenons la bonté, et que j'ai recherché dans les Écritures tous les exemples de bonté du Seigneur, mais que j'étudierai ça en profondeur, et qu'ensuite je regarderai la bonté du Seigneur dans sa providence envers les hommes, envers ma vie en particulier, et que je ferais ça, que ce serait le travail de toute ma vie. Pensez-vous que je saurais vraiment ce que c'est la bonté de Dieu? Pas vraiment. Et je ne le saurai jamais non plus. Même rendu au ciel, sa bonté est tellement infinie que l'éternité ne me suffira pas pour comprendre juste cet attribut-là. Imaginez-vous, il y en a 25 attributs. Si je prends les 25 en même temps, je ne serai jamais capable de comprendre Dieu dans sa grandeur infinie. Alors, sa grandeur est insondable. Pour quelle raison l'adoration est prééminente? C'est parce que, à cause de ses perfections infinies. C'est l'ensemble des attributs de Dieu qui nous donne une compréhension de la nature et de la personne de Dieu. Et je lisais dans le petit magazine, je disais, il est important de ne pas exalter un attribut au-dessus d'un autre. Le faire serait caricaturer Dieu. Pourquoi qu'on dit... Je vais te donner un exemple. Il y a des églises qui vont prendre un attribut de Dieu, comme par exemple la bonté, et ils vont tellement parler de la bonté de Dieu qu'ils vont, négliger de parler de d'autres aspects de Dieu qui peut-être peuvent nous déranger davantage. La justice de Dieu, la colère de Dieu. Alors, si on en prend un et qu'on le montre en épingle et qu'on ne tient pas compte des autres attributs que la Bible nous donne, on caricature Dieu. Il faut garder un genre d'équilibre dans toute société. Ça peut être plus difficile qu'on pense. Alors, on va en regarder quelques-uns, juste pour faire un bref résumé de ce qu'on sait sur les attributs. Alors, normalement, si vous prenez n'importe quel livre de théologie qui vous parle des attributs de Dieu, vous allez voir que la manière dont les auteurs utilisent pour classifier les attributs de Dieu varie un petit peu. Alors, il y en a qui appellent ça des attributs moraux, les attributs relatifs, absolus, communicables, incommunicables. Alors, il y a différents systèmes pour classer ça. Alors, moi, j'ai pris celui dans le livre que j'utilisais, les attributs absolus et les attributs relatifs. Absolu. La spiritualité de Dieu, Dieu n'est pas matériel. Il n'est pas comme nous, on est matériel. Lui, il est esprit, il n'a pas une forme physique et il est partout, il est source de vie. Dieu est ici, mais si je m'en irais au Brésil, Dieu est au Brésil. Si je m'en vais en Afrique, Dieu est en Afrique. Si je m'en vais sur la Lune, puis je réussis à atterrir sur la Lune, est-ce que Dieu est là? Oui. Si j'irais sur Mars, est-ce que Dieu est là? Si j'irais sur n'importe quelle étoile de l'univers, est-ce que Dieu est là? Alors, Dieu n'est pas une... Alors, juste cet aspect-là de Dieu, c'est fascinant de penser que Dieu est ici ce matin, mais que Dieu est dans toutes les églises du monde entier et il est partout. Ça, c'est l'aspect « Dieu est esprit ». Son existence propre. Tout ce qui existe, à l'exception de Dieu lui-même, doit leur existence à un être supérieur qui est Dieu. Mais Dieu, son existence ne tient pas d'une autre personne. En anglais, on appelle ça self-existence, non, existence propre. Alors, il tient son existence de lui-même. Il est indépendant dans son être, dans ses vertus, dans ses décrets, dans ses œuvres, tout dépend de lui et il est existence continuelle en lui-même. Quand Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent, il a demandé qui était. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ça veut dire son existence a toujours été et il ne doit pas son existence d'aucune autre personne que de lui-même. L'immuabilité. Ça veut dire que Dieu est dépourvu de tout changement, non seulement dans son être, mais aussi dans ses perfections. Il est amour, il va toujours demeurer amour. Il est justice, il va toujours demeurer justice. Il est miséricorde, il va toujours demeurer miséricorde. Immuabilité, ça veut dire qu'il ne change pas. Il est immuable dans ses perfections Mais une autre chose qu'on oublie souvent, il est immuable dans ses desseins, dans ses décrets. Ce qu'il a décidé qui se passerait sur la terre et dans tout l'univers et dans toute sa création de toute époque, ça, ça a été décidé, ça ne changera pas. Et aussi dans ses promesses. Ça, c'est une chose intéressante aussi de savoir que quand Dieu promet quelque chose, il ne changera jamais d'idée. Combien de parents ont déjà promis des choses à leurs enfants? Puis, à cause de toutes sortes de circonstances, tu ne peux pas accomplir ce que tu avais décidé. Alors, on a fait une promesse, puis jusqu'à un certain point, elle est fausse. Des fois, on se dit, on va dire aux enfants, « Ben là, c'est pas une fausse promesse que je t'ai faite, mais je vais la faire plus tard. » Mais tu avais dit samedi. Si tu ne le fais pas samedi, tu as manqué à ta promesse. Mais Dieu, j'avais déjà parlé que j'avais downloadé, téléchargé un livre sur Internet où il y avait toutes les promesses de Dieu rassemblées, classifiées par catégorie. Ça, c'est intéressant. Tout ce que Dieu a promis dans les Saintes Écritures, ça s'adresse à nous. Et on peut savoir que quand Dieu a promis quelque chose, il va toujours tenir sa promesse, contrairement à nous qui, des fois, on se donne des petits... Alors, son immuabilité, ensuite son unité. Dieu est absolument unique, personne ne peut lui être comparé et il ne peut non plus être divisé. La vérité. Si on a une chose, on a de la misère aujourd'hui, en l'an 2015, peu importe ce que vous voulez acheter, disons que c'est un gros montant. Quand c'est des petits montants, 25 cents, 50 cents, ça ne nous dérange pas trop de s'être fait passer une petite vite, comme on dit. Mais quand on veut s'acheter quelque chose qui coûte 2000 pièces, on aimerait bien que les gens qui veulent nous vendre ça nous disent la vérité. Mais on sait, on vit dans un monde de mensonges. Tout le monde ment. Les compagnies mentent, les vendeurs mentent, tout le monde ment. Et on souffre à cause de ça parce qu'on aimerait tellement. Dis-moi juste la vérité, es-tu bon ou es-tu pas bon? Mais les gens vont, ouais, c'est bon, puis ils vont juste te montrer le côté agréable, le côté correct. Là. Mais ils ne diront pas, mais ce char-là, il coûte très cher en huile, il coûte très cher en ci, en ça. Les gens, alors on vit dans un monde de mensonges. Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il ne ment jamais. Et ça, pour nous, c'est tellement rare parce que autour de nous, sur la terre, tout n'est que mensonge. Même Dieu dit « l'homme est menteur ». L'homme est menteur de nature, donc nous sommes menteurs, nous aussi. Qui d'entre nous pourrait lever la main et dire « je n'ai jamais menti » ? On est menteur. Non, on est entouré de menteurs, à quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on se doit de demeurer menteur toute notre vie, mais ça veut dire que quand on est régénéré, le Seigneur s'occupe de corriger ce défaut-là, entre autres. Mais lui, ce qui est intéressant, quand on loue la parole de Dieu, ça dit « ma parole est la vérité ». On ne se pose pas de questions, on est sûr que c'est vrai. L'amour, bien là, on pourrait en parler très longtemps, l'amour de Dieu. Juste l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Premièrement, les Écritures nous apprennent que Dieu le Père, de toute éternité, nous connaissait, nous, personnellement. Moi, je suis venu au monde le 21 septembre 1946. Le Seigneur, dans son éternité, il savait, il me connaissait avant même que je vienne au monde. Il m'avait choisi avant même que je vienne au monde. Il m'avait mis en Jésus-Christ pour que, éventuellement, je sois éclairé, je connaisse mon état de perdition, je connaisse que je sois mis face à la personne de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, l'amour. Mais aussi, ce qui s'est passé sur la croix. L'amour de Christ. L'amour de Christ pour accepter de subir le châtiment que j'aurais dû subir, le subir à ma place. On ne peut même pas imaginer jusqu'à quel point l'amour de Christ est grand. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. On a vraiment besoin de beaucoup méditer là-dessus. La bonté de Dieu. Dieu est essentiellement et totalement et immensément bon. Et non seulement il la démontre envers les hommes régénérés, donc Dieu est bon envers chacun d'entre nous, Mais les Écritures nous disent qu'il est bon même envers les irrégénérés. Parce qu'il y a des passeurs, les Écritures disent « Dieu fait pleuvoir, Dieu fait ci, fait ça sur les méchants et sur les bons. » Il est bon envers tout le monde, toute sa création, toutes ses créatures. Maintenant, sa sainteté. Voyez-vous le verset 99, le psaume 99, verset 5, il dit « Prosternez-vous devant son marchepied » et il ne nous dit pas « car il est bon, car il est miséricordieux, car il est... » Ça s'arrête, tout était vrai. Mais gardez le mot que je choisis. La sainteté de Dieu. On parle souvent de la sainteté de Dieu comme sa couronne. L'attribut qui couronne tous les autres. Sa justice est sainte, sa miséricorde est sainte, sa bonté est sainte. Tout est saint en lui. Et saint, bien au-delà, quand Dieu dit c'est saint, nous, notre définition de la sainteté, c'est souvent la séparation du mal. Mais c'est plus que ça. C'est la séparation de toute créature. Sa sainteté dépasse tout ce qu'une créature peut imaginer. Et la meilleure façon de voir cela, c'est Ésaïe 6, quand Dieu permet que Ésaïe le voie. Et qu'est-ce qu'Ésaïe dit? « Je suis perdu, car j'ai vu l'Éternel des armées. » Sa sainteté, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement intense, que même Ésaïe, qui était un prophète obéissant, utilisé par le Seigneur, quand il a été placé devant l'observation de l'Éternel, il était « Je suis perdu ». Parce que la lumière, la sainteté, c'est la lumière de Dieu. Quand elle est placée sur nous, on voit toutes nos imperfections, toutes nos misères, toute notre profondeur, notre corruption. Et vraiment, on ne peut pas faire autrement que dire « Je suis perdu ». Et vraiment, c'est le fait qu'un ange est allé prendre un charbon, l'a mis sur sa bouche, et c'est ça qu'il l'a. Mais qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait le fait que le charbon... C'était le jugement que Dieu avait donné sur son Fils, et qu'en touchant sa bouche, c'est comme ça voulait dire, mais Christ a payé pour tous tes péchés, peu importe la nature, peu importe qui tu es, Christ a payé pour cela. Alors la sainteté de Dieu, c'est vraiment quelque chose, Dieu est absolument distinct de toutes ses créatures. C'est plus que la séparation c'est la séparation du mal, mais c'est aussi l'expression que Dieu est séparé de sa créature d'une façon infinie. Dans tout, disons qu'on prendrait le plus saint de la terre. Il va en avoir un qui passe à la terre qui est plus saint que les autres. Là. Si on comparerait sa sanctification, sa sainteté de lui avec le Seigneur il dit, compare-moi même pas avec ça. Pourtant, nous, si on verrait l'homme le plus saint de la terre, on dirait, waouh, il marche, il fait ci, il fait ça. Le Seigneur il dit non. Ma sainteté, ça ne se compare pas avec celle des créatures. Alors ça, c'est un aspect qu'on a besoin de découvrir. Oui, l'Éternel est saint. Quand on dit l'Éternel, l'attribut, on va tomber dans les attributs relatifs, l'éternité. Dieu est éternel. Pour nous, c'est donc une notion qui est difficile à comprendre. Pour moi, tout est un commencement. Mon père est venu au monde en Beauce à telle année. Il y a eu un commencement. Et maintenant, il est mort telle année. Moi, j'ai eu un commencement, je vais avoir une fin. Tout ce qu'on connaît sur la terre a un commencement et une fin. Quand on parle de Dieu, l'éternité, ça veut dire que on ne peut pas reculer puis trouver un moment, « Ah, c'est là qu'il a été créé, c'est là que ça a commencé. » Il a toujours existé. Pour nous, c'est un recul tellement loin. Et on ne pourra jamais aller assez loin pour découvrir la source, parce qu'il n'a pas de source. Il a toujours existé, l'Éternel, ça le dit, il a toujours existé, et il existera toujours. C'est un attribut extraordinaire. Donc, lui n'est pas lié par le temps. Supposition que je regarde quelqu'un dans la salle, je dirais, OK, lui, il va mourir quelle année? Il va mourir quelle date? Il va mourir dans quelles circonstances? Oublie ça, là. Moi, je ne sais pas ça. Personne n'est capable de savoir ça. À moins que je sois un menteur. Mais normalement, on ne sait pas ça. Mais Dieu, quand on dit qu'il est éternel, pour lui, le passé, le présent et l'avenir, tout ça, c'est confondu. Pour lui, il voit autant mon avenir qu'il voit mon passé. Il voit autant mon avenir qu'il voit mon présent. Pour lui, ici, Marcel Longchamp va mourir telle date, à tel endroit, de telle manière, et tout est décrété. Alors lui, moi, c'est bizarre parce que je me dis, dans 5 ans où je vais être, je ne sais pas. Mais lui, il sait. Il sait non seulement pour nous comme qui sont ici présents ce matin, mais il sait pour toutes les créatures. Non seulement, on ne parle pas juste des hommes, là. On parle de tout ce qu'il y a de la vie. Il pourrait prendre tous les animaux, tout ce qui existe, il pourrait savoir quand est-ce exactement toute l'histoire de leur vie. L'immensité. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, ça dit, pour parler de l'immensité du Seigneur, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, on sait que l'univers est extrêmement grand et Dieu, en théologie, souvent on va regarder cet aspect-là, ce qu'on appelle l'immanence et la transcendance. L'immanence, ça veut dire que Dieu est présent dans tout ce qui existe, mais qu'on ne doit pas le confondre avec l'existence. Parce que c'est ça qui fait le panthéisme. Les panthéistes vont dire « Dieu, c'est la création ». Mais ce verset-là dément ça, parce que ça dit « les cieux et les cieux des cieux », donc autrement dit, tout ce qui existe, ne peuvent te contenir. Donc, l'immanence, c'est le fait que Dieu est présent dans tout ce qui existe, et la transcendance, ça veut dire qu'il est là-dedans, mais il est au-dessus de ça, puis ça, on ne peut pas savoir jusqu'à quel point il est au-dessus de ça. Alors, son immensité, il transcende toutes les limites spatiales, il est présent dans tout son être et dans toutes les questions relatives à l'espace. L'omniprésence, là, si ce serait quelque chose qu'on comprendrait vraiment, et qu'on agirait conséquemment avec le fait de l'omniprésence. Et vous allez dire, bien, c'est pas possible. Mais moi, je vous dis que oui, c'est possible. Quelqu'un qui prendrait conscience que Dieu est toujours présent partout où il est, peu importe ce qu'il fait, peu importe ses circonstances, sa vie serait littéralement transformée. Pourquoi? Parce que des fois, dans le cours d'une journée, on dirait qu'on oublie ce qui est là. Et là, on dirait qu'on retrouve notre naturel et on fait des choses qu'on n'oserait jamais faire dans la présence de Dieu. Mais il est toujours présent. On ne peut pas rien faire qu'il ne sait pas, qu'il ne nous voit pas faire. Il est toujours présent. Mais quelqu'un qui prend pleinement conscience de ça, pensez-vous que ça a un impact sur la qualité de sa vie spirituelle? Bien entendu. L'omniprésence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le psaume 139, les versets 7 à 12, on n'y aura pas ce matin. C'est juste pour montrer que le Seigneur, il dit qu'il est présent partout, même dans l'enfer. Il est présent sans que ça l'affecte. Il est présent partout. C'est pas possible d'être un endroit dans l'univers où Dieu n'est pas présent. L'omnipotence, ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est tout-puissant et il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut faire quelque chose qui est hors d'harmonie avec sa nature. Comme par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Sa nature, c'est la vérité. C'est un de ses attributs. Donc, si quelqu'un dit, « Ben non, Dieu n'est pas tout-puissant, il ne peut pas mentir. Moi, je peux mentir. » Donc, tu sais, il y a du monde qui dit, il y a du monde qui ont déjà écrit des affaires, « Dieu, es-tu capable de faire un rocher assez puissant pour que je ne sois plus capable de le lever? » Complètement stupide comme question. Ça dit que Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit qui n'est pas en harmonie avec sa nature. Il ne peut pas revenir sur sa parole, il ne peut mentir, il ne peut avoir aucune relation avec le péché. Dieu ne peut pas pécher. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu, « Ah, bien, tu dis qu'il est tout-puissant, donc il y a des choses, il serait capable de faire toutes choses, incluant mentir, incluant manquer à ses promesses. » L'ensemble de ses attributs, il ne peut pas agir en fonction d'un déséquilibre ou d'une désharmonie à l'intérieur de ce qu'il est. la vérité. C'est-tu intéressant de savoir qu'on peut se fier sur lui en toute chose, en tout temps? Il est la vérité dans sa personne parce qu'il dit lui-même, « Je suis la vérité, le chemin, la vérité. » Il est la vérité. Et aussi dans sa révélation, donc il est dans sa personne, mais il l'est aussi dans ses Écritures, et il l'est aussi dans ses promesses. Moi, je pense qu'on aurait grandement avantage à s'acheter un livre qui parle des promesses de Dieu et à se les rentrer dans le coco bien d'aplomb. Parce qu'on peut les réclamer quand on est dans une certaine situation. Je me souviens, Spurgeon souffrait beaucoup de la goutte. Et, à un moment donné, il priait, puis il rappelait à Dieu ses promesses. « Mais, Seigneur, tu m'as promis ça. Mais, Seigneur, tu m'as promis ça. Hé, Seigneur, tu m'as promis ça. » Mais encore, faut-il les connaître, les promesses, pour les rappeler à Dieu et réclamer leur application sur nos personnes. La miséricorde. La miséricorde, c'est d'avoir pitié de quelqu'un. La miséricorde, c'est l'amour que Dieu démontre envers ceux qui sont dans la détresse ou dans la misère. Peu importe ce qu'ils méritent, Dieu répond aux besoins temporels et spirituels et sa miséricorde s'étend sur Israël aussi bien que sur les gentils. La grâce. Mais là, on parle d'un sujet énorme. La grâce, moi, je me souviens souvent, je l'ai lu dans des livres, défini comme étant une faveur imméritée. Moi, j'ai lu dans un autre livre quelqu'un qui définissait autrement, et je suis sûr qu'il a raison, parce que la grâce est une faveur déméritée. La différence entre les deux, il avait déjà donné un petit exemple, une illustration. Supposition que je veux donner $1,000,000 à quelqu'un, je mets ça dans une valise, tous des beaux billets de mille en liasse, je mets ça dans une valise, puis je vais cogner à mon voisin. Bon, salut, je vais te faire un cadeau. Je mets la valise à la table, je te le donne. Le gars ouvre ça. Hein? C'est-tu des vrais billets? Oui, je vais aller à la banque, je vais aller changer. Je peux y déposer, c'est à toi, je te le donne. Ça, c'est une faveur imméritée. Tu donnes quelque chose à quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas. Pourquoi je donnerais ça à mon voisin? Mais une faveur déméritée, c'est que j'ai un autre voisin qui reste l'autre bord. Et lui, il passe son temps à tirer des roches, casser mes vitres, faire du mal à mes enfants, me chanter des bêtises, vraiment être mauvais, être très méchant envers moi. Si je prends le même million, puis je vais le porter à cette personne-là qui est mon ennemi, qui me fait du mal, qui me maltraite en tout temps, puis ça fait des années qu'il le fait. Là, je pense qu'on a une vraie définition de ce que c'est une grâce. Je prends quelque chose et que je le donne à un ennemi qui me fait... Et c'est ça que les Écritures disent quant à nous. On est ses ennemis, il vient nous faire grâce alors qu'on est ses ennemis. Et ce qu'il nous donne, c'est bien plus qu'un million, là. Alors, moi, j'aime beaucoup la définition, c'est une faveur déméritée. Tu mériterais le contraire, puis te fais quand même une grâce. Et bien sûr, la justice, Dieu est entièrement correct et juste dans toutes ses actions envers toute l'humanité. Alors, des personnes, des fois, ils vont dire, ben là, cette personne-là, on prend un exemple bien concret, bien concret. Moi, je ne peux pas savoir si, disons, ma mère est au ciel ou en enfer. Parce qu'elle ne m'a jamais exprimé le fait qu'elle était croyante, évangélique, croyait à la Bible, etc. Mais, en tout cas, disons que je ne le sais pas. Mais pour moi, connaissant ma mère, je l'ai toujours aimée. Je connaissais ses défauts, ses misères. Mais malgré cela, est-ce que je serais porté à dire que Dieu est juste en condamnant ma mère à l'enfer pour l'éternité? Ça, on a de la misère avec ça. Parce que nous, on reste sur la sphère terrestre. Dans ce que je connais de ma mère, mon cœur est assez grand pour dire qu'elle ne mérite pas ça. Maintenant, si je rentre dans la sphère céleste, et là, les péchés aux yeux de Dieu, quand on dit souvent, un seul petit péché nous mériterait d'être condamné, plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, Mais à ce moment-là, si Dieu l'a renvoyé là, il est juste. Même si moi, j'ai de la misère à concevoir à cause de ma nature pécheresse, sa justice, mais la parole nous dit qu'il est juste en tout temps, en toute chose. Et cette justice-là, elle va être toujours en accord avec sa loi. Qu'est-ce qui nous révèle si on fait un péché ou non? Le décalogue, la sainte loi, ou les 10 commandements, c'est la même chose. Alors, c'est selon les manquements que Dieu va condamner les gens ou non à l'enfer avec les divers degrés que ça peut représenter. C'est sûr qu'on pourrait en parler énormément. J'ai un livre à la maison, ça d'épais, 1200 pages, juste sur le sujet des attributs de Dieu. On le considère comme étant un classique. Imaginez-vous parler de Dieu, de ses attributs sur 1200 pages. Y aurait-il quelqu'un d'entre nous qui serait capable de faire ça? 1200 pages. Quand on lit ça, on n'en revient pas. On pense qu'on sait tout sur les attributs, mais quand on lit ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Alors, je voudrais revenir juste sur un point concernant, parlant de la grandeur de Dieu. Et je veux parler de son omnipotence, de son omniscience et de son omniprésence. Et je me souviens, une fois j'étais à Ottawa, chez un ami, on avait été là, moi et Lucie, ils nous avaient gardé à coucher, puis le lendemain, il m'avait dit, si tu veux faire ton culte, tu peux prendre mon bureau, puis moi, je vais le faire en bas. Donc, j'ai pris son bureau, puis je me suis mis à lire dans sa Bible, parce que sa Bible était sur le bureau. Et là, je l'avais ouvert au psaume 147, versets 4 et 5. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de sa Bible, il y avait une note sur ce verset-là, qui voulait définir un petit peu. Des fois, on lit quelque chose, c'est pas que le texte dit pas une chose très grande, mais nous, on la perçoit pas aussi grande qu'elle est en réalité. Psaume 147, versets 4 et 5. Là, on parle du Seigneur. Il compte le nombre des étoiles. Là, on se dit, so what? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire que ça? Moi aussi, je sais compter. Alors ça dit, il leur donne à toutes des noms. Là, ça devient extraordinaire quand on connaît le nombre des étoiles et qu'il leur a donné des noms à toutes. Après ça, dans le verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Et la fin du verset 5, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Son intelligence n'a point de limite. Donc, l'intelligence de Dieu est infinie. Maintenant, si on veut apprécier un petit peu le verset 4, dire « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms », n'est-ce pas qu'il faut avoir une idée de la grandeur du nombre des étoiles? Sinon, alors, les astronomes modernes, c'est là que j'avais pris ça dans sa Bible, je l'avais noté, je l'avais emmené à la maison, je l'avais gardé dans mes notes. Les astronomes modernes évaluent qu'une seule galaxie contient plus de 100 milliards d'étoiles. Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. Alors, il est capable de compter, il est capable de leur donner des noms. Mais là, est-ce qu'il y a juste une galaxie? Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. Maintenant, il semble qu'il y aurait plus de 10 milliards de galaxies. Donc, 10 milliards fois... Alors, ça dépasse notre capacité d'entendre. Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. Puis il y a 10 milliards de galaxies. Alors là, on commence à rentrer un petit peu dans le... Alors, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Imaginez-vous, là, même mathématiquement, je ne suis même pas capable de donner le vrai nombre de ça, là. J'ai des chiffres, mais je ne suis pas capable. C'est des choses qu'on n'est pas habitué à jouer, des chiffres aussi gros que ça. Alors, c'est juste donner une idée. Alors, quand on parle de la grandeur de Dieu, là, on en a parlé dans le sens de son omnipotence, le fait qu'il est capable de faire des choses, l'intelligence sans limite. Mais c'est tous les 25 attributs, c'est le même. Alors, l'adoration, quand on vient ici le dimanche, et qu'on projette des chants ou qu'on entend la parole de Dieu, ça devrait élever nos esprits, élever nos cœurs à la contemplation du Seigneur. Si ça ne fait pas ça, et que notre esprit vagabonde et qui part dans toutes les directions, on a manqué un beau culte. Et malheureusement, je dois avouer bien humblement, personnellement, que j'ai dit certains cultes que j'ai assistés, j'étais pas correctement, mon état d'esprit n'était pas en bonne forme pour être capable d'apprécier ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, de le voir dans sa grandeur, de le voir dans sa bonté, de le voir dans sa miséricorde. Peu importe l'angle qu'un prédicateur va vous emmener, il y a toujours un angle qui devrait nous emmener. Ah! Voir la bonté de Dieu. Comment je verrais juste ça dans un sermon? J'ai beaucoup vu. Si je vois sa grandeur, je vois un autre aspect. Alors, l'adoration est prééminente à cause du fait que Dieu est parfait dans ses attributs. Deuxième raison, l'adoration est prééminente parce que Dieu l'a commandé. Et là, on va prendre un verset archi connu, qu'on sait tous, on a tout entendu, je ne sais pas combien de fois, mais est-ce qu'on le comprend? J'ai pris la version Darby, Jean 4, versets 21 à 24. Alors ici, dans le contexte, c'est Jésus qui est en train de parler avec la Samaritaine au puits. Là. Alors Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. » Autrement dit, si dans ton adoration, Jésus-Christ n'est pas présent, le salut vient des Juifs, et le salut vient des Juifs par qui? Par Jésus-Christ. Alors, si dans notre adoration, Jésus-Christ n'est pas présent, il peut y avoir beaucoup de fausses adorations. D'ailleurs, il y en a beaucoup de fausses adorations sur la terre. Verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est maintenant, parce que Jésus était sur la terre, que les vrais adorateurs, voyez-vous, il est en train de donner une qualité au mot adorateur, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il l'adore. » Autrement dit, l'idée, c'est que le Père, ce qu'il cherche, le mot, en anglais, c'est le mot « seek », on va vous donner tout à l'heure qu'est-ce que certains commentateurs ont dit sur le mot « seek ». « Seek » en anglais, ça veut dire « il cherche », « il recherche », c'est ça qu'il veut. Alors, il dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Dans un article intitulé « God-seeking worshippers », donc autrement dit la traduction « Dieu cherche des adorateurs », dans le même magazine « Free Grace Broadcaster », sur le thème « worship », Horatio Bonheur. Horatio Bonheur, c'est un prédicateur de l'Angleterre ou d'Écosse, je pense que c'est plutôt d'Écosse. Il a fait la remarque suivante concernant la signification de l'expression « le Père en cherche ». Il dit le mot anglais « seeketh », qu'on traduit par « cherche », le mot signifie « plus » que l'on perçoit à première vue. Dieu est à la recherche de quelque chose qu'il a perdu, de quelque chose qu'il considère précieux. Il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Troisième raison pour laquelle ça devrait être prééminent dans nos vies, parce que c'est notre premier devoir. La prééminence se définit comme étant la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Donner la prééminence, c'est donc donner la première place. Apocalypse 22, versets 8 et 9, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Voyez-vous, ici on apprend quelque chose de fondamental. Dès que quelque chose dépasse notre capacité, il a vu un ange et lui... Ça a fait en sorte que la créature a voulu adorer une créature. Ça démontre quoi? Qu'on a la tendance à ça. Même Jean, qui avait vécu avec Jésus-Christ sur la terre pendant 3 ans, quand il a vu un ange, pour lui, c'était quelque chose de tellement extraordinaire qu'il a été porté à vouloir l'adorer. Et voici qu'est-ce que l'ange a répondu. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Quelque chose d'extraordinaire quand même. Adorer, c'est rendre hommage à Dieu. Le mot évoque le geste de s'incliner, en grec c'est proskuneo. Donc c'est vraiment l'idée de ployer le genou. C'est vraiment ployer le genou, les chines, la tête, tout l'être. C'est un geste de soumission, c'est un geste de « oui, je reconnais ta grandeur, ta soumission, je reconnais tout en toi, que tu as tous les droits sur moi. » Donc c'est un geste qui évoque de se prosterner, ou même plus que ça, parce que vous regardez souvent dans les Écritures, c'est se jeter la face contre terre. C'est de prendre conscience tellement de la grandeur de Dieu qu'on n'est même pas capable de rester même à genoux, on se jette la face contre terre. C'est vraiment le geste, c'est ça que ça veut dire. Alors, adorer, c'est donc reconnaître la supériorité et l'autorité infinie. Donc, on s'incline devant lui. Seul Dieu a droit à notre adoration. C'est donc la soumission respectueuse devant Dieu. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, ça dit, « Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dans Romains, chapitre 14, verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Un jour, tous les pécheurs vont fléchir le genou devant Dieu. Le jugement, même les méchants vont reconnaître que le jugement de Dieu est correct. Ils vont fléchir le genou et ils vont donner gloire à Dieu malgré leur condamnation. Parce qu'ils vont prendre pleinement conscience, à cause de la présence de Dieu, que ce que Dieu fait est toujours absolument parfait. Apocalypse, chapitre 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Voyez-vous, j'avais préparé trois points, puis j'en ai donné seulement un, puis on a déjà 52 minutes, presque 53. Alors, ce qu'on va faire, plutôt que de glisser sur le point 2 et le point 3 dans le but de terminer ce que j'avais préparé, on va plutôt continuer la semaine prochaine et on va faire le point 2 et le point 3. Et à ce moment-là, on fera une révision un petit peu de ce qu'on a vu cette semaine, de façon à ce que pas. Je ne voudrais pas. C'est un sujet tellement important que je ne voudrais pas le. Comment on dit en québécois, le moffer, parce que c'est un sujet important. Alors, on va terminer là-dessus et la semaine prochaine, on reviendra sur le même sujet en regardant l'adoration, ses prérequis et aussi l'adoration, sa préciosité. Qu'est-ce que ça va nous amener si on fait ces choses-là? Et là, on va découvrir des choses tellement intenses. Moi, une des choses qui m'a marqué depuis les dernières années de ma vie, peut-être pas dans les premières années de ma vie chrétienne, mais je t'ai passé réveillé, comme on peut dire. Maintenant, je pense que je suis un petit peu plus. Je ne mettrai pas trop, parce que... C'est le fait que Dieu peut nous donner, à chacun de nous, de devenir des chrétiens adorateurs de première qualité. Et moi, c'est une conviction extrêmement profonde que c'est à la portée de tous et de chacun. Mais qu'est-ce qui fait qu'on l'atteint ou qu'est-ce qui fait qu'on ne l'atteint pas? C'est pas juste, ah ben Dieu a décidé de faire la grâce à lui puis il n'a pas décidé. Oui, il y a ça, mais il y a aussi vouloir, demander, chercher la face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, là, c'est que tout notre être est à la recherche de sa grandeur, de ses perfections. Et on se doit de le demander au Seigneur. Seigneur, tu sais, je suis un piètre adorateur. Jusqu'ici, j'ai été un piètre adorateur. Mais j'aimerais que tu fasses de moi un adorateur de première catégorie. Et moi, je suis convaincu que c'est à la portée de tous, mais en autant qu'on veuille le faire et qu'on demande à l'Éternel de nous l'accorder. La preuve, c'est qu'il y a eu beaucoup de grands saints. On en parlait dans le deuxième, troisième point, qui l'ont atteint, ce niveau-là. Mais c'est pas un hasard. Alors, quand on prend conscience de ça, ben, il faut quelque part demander à l'Éternel de nous rendre meilleurs, de nous rendre des adorateurs plus puissants, plus conscients et plus réveillés face à sa grandeur infinie. Pour que chaque fois qu'on fait un culte, qu'il soit personnel, familial ou en église, ça nous amène toujours à « Oh, on est émerveillé, on est en contemplation, on est... » Et si vous voulez être franc et être honnête avec vous-même, est-ce qu'on arrive toujours à cet état-là dans nos cultes, personnels, familiaux, églises? Il y a place à amélioration. Alors, on va terminer là-dessus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on veut te rendre grâce pour avoir amené ce sujet devant nos yeux. On a besoin tous de devenir de meilleurs adorateurs. Il n'y a que toi qui sais où nous en sommes vraiment, où nous sommes situés dans une échelle de bons adorateurs. Et Seigneur, on te prie de nous guider, de nous éclairer et de faire en sorte qu'on t'adore de plus en plus puissamment, de plus en plus consciemment, de plus en plus aussi dans un esprit rempli de contemplation, rempli d'admiration. Alors Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous conduire vers ce chemin. Et c'est ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.